Bonjour à tous et bienvenue dans la seule émission qui n'a pas de nom. C'est bien, c'est la fin de mois, je suis obligé de faire les fonds de placard. Mais heureusement, on va augmenter la TVA et ces moments pourront durer plus longtemps pour moi. Je suis très heureux. Et maintenant, le jingle.
La seule émission qui n'a pas de nom.
La seule émission qui n'a pas de nom, c'est bien. Parce que c'est dans tes oreilles. C'est cool. Hein. Ça va pas de nom. Ça va pas de nom. Comment ça? Ça va pas de nom. Ça va pas de nom.
Ça n'a pas de nom.
Ça n'a pas de nom.
Ça n'a pas de nom. C'est n'importe quoi. Bah, c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de nom, quand même. Hé, quoi ? Hein ?
Tabalette papa.
Bienvenue dans la seule émission qui n'a pas de nom. Alors, ces derniers temps, pour vous, ont été très difficiles dans les médias. Se taper plus de 2 heures de Hollande et 1 heure de Sarkozy, il y a de quoi se rappeler à quel point la vie est horrible. Enfin, pour nous, la France d'en bas, comme disait un très mauvais communicant devenu Premier ministre, la vie est dure. Mais d'après ce que nous ont raconté les gens qui veulent devenir chef des Français et qui passent tout le temps à la télé et à la radio, ça va toujours être dur. Même s'ils sont chefs de la France en mai prochain. Ça donne bien envie d'aller voter tout ça. Je sais mettre de la joie et de la bonne humeur dans vos enceintes, comme vous pouvez le voir. De toute façon, on s'en fout, il ne nous reste plus que quelques mois avant la fin du monde. Alors croquons la vie, dansons le twist, adoptons des chatons. Ils n'auront pas le temps de grandir et resteront mignons pour l'éternité. Écoutons la seule émission qui n'a pas de nom aussi, et émasculons des ragondins. Ouais. Je suis peut-être allé un peu trop loin, c'est pas très paritaire. Alors stérilisons aussi des ragondines. Mais pourquoi je raconte ces bêtises? Je suis censé, en tant qu'animateur de la seule émission qui n'a pas de nom, de vous faire rire avec l'actualité. Ha ha ha. De plus, je devrais en profiter, étant donné que les prochaines générations risquent de ne pas pouvoir comprendre mes blagues, par manque d'instruction. Je suis pas en train de dire que je suis très intelligent, loin de là.
Je suis con et fier de l'être.
Je veux dire que, vu les conditions de scolarisation actuelles, les futures générations d'auditeurs risquent d'avoir du mal à comprendre les paroles des chansons de Laurie. Alors imaginez comment ils pourront comprendre les hommes politiques qui passeront dans la seule émission qui n'a pas de nom et les questions de Michel sans fin. Michel d'ailleurs qui est là pour me seconder, poser ses questions et me saluer juste après que j'ai dit « Salut Michel ».
Bonjour tout le monde. Alors évidemment, je ne suis pas seul, comme d'habitude. Il y a tout Twitter avec moi.
Salut tout Twitter. Ah, vous le savez, si vous êtes de fidèles auditeurs de la seule émission qui n'a pas de nom, depuis la rentrée, nous recevons des responsables politiques locaux pour leur poser des questions de merde, et parfois aussi de bonnes questions. En n'oubliant pas de faire des blagues et autres calembours, pas toujours du meilleur effet. Beaucoup de personnages de différentes formations politiques différentes se sont prêtés au jeu, même si cela ne doit pas forcément être très marrant pour eux. Surtout, ce moment-là, ce moment où je fais ce monologue interminable, où l'invité doit se demander si je vais finir par le présenter. Enfin, il doit plutôt se dire à l'intérieur de lui « Mais ta gueule avec ta voix de merde, tu me saoules. Je veux parler aux Français, qu'ils votent pour moi, qu'ils m'adulent !» J'extrapole peut-être un peu là, enfin. Aujourd'hui, nous recevons une formation politique que nous n'avons encore jamais reçue. Petite formation. De plus, notre invité n'occupe pas de responsabilité politique à Besançon. Je sais donner envie aux auditeurs de rester à l'écoute de l'émission. Le meneur de la formation politique de notre invité est suspecté de boire beaucoup, et notre invité porte le nom de l'instit le plus célèbre de France, bien qu'il ne fût jamais instit. Notre invité porte la barbe, élégamment, et le costume, tel un chef d'entreprise qu'il n'est pas. Il est maire d'une petite commune, vers Montbéliard, dont vous aurez lu le nom plus tard. Teasing. Il est vice-président de la communauté d'agglomération de Montbéliard, du pays de Montbéliard, et candidat aux législatives sur la 4e circonscription du Doubs. Je vais dire son nom, juste après ce cri inutile. Il s'agit de Didier Klein, du Parti Radical. Bonjour Didier Klein.
Dire bonjour alors à tout le monde, et puis non, le monologue n'était pas trop long pour l'instant pour moi, merci.
Il était pas trop nul non plus ?
Oh, ça va, c'est supportable.
Si vous avez apprécié mon monologue, alors vous allez aussi apprécier ce moment où je vais couper le téléphone et aussi le moment où je vais exposer le plan de l'émission. Un moment attendu par des millions de personnes all over the world. Nous commencerons par faire votre biographie, monsieur Klein. Ensuite, on parlera d'actualité locale. Vous répondrez à nos horribles questionnaires décalés avant de discuter d'actualité nationale et plus large, et surtout de ce qu'a dit notre président. Et puis pour finir, nous allumerons un feu dans le studio et nous danserons nus afin d'appeler les esprits. Un programme alléchant ?
Merveilleux.
On va commencer bien sûr par votre biographie. J'ai fait vraiment un travail d'investigation digne des plus grands journalistes afin de me documenter sur vous, sur votre vie. Un travail éprouvant qui a consisté à lire votre bio sur votre site internet. Alors, vous êtes né en 1960. Comme mon père. À Besançon, comme mon père. Vous seriez pas mon père, en fait ?
Non.
Ah, il y a un air.
Rassuré,
hein.
Peut-être, j'espère.
Vous auriez honte d'avoir un enfant comme moi?
Oh non. Faut jamais avoir honte de ses enfants.
Dans votre jeunesse, vous travailliez dans le restaurant familial tout en faisant vos études. Et attention, question de fond, comment s'appelait ce restaurant?
Le Château de la Juive.
Et il ne devait pas être très fréquenté pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce restaurant.
Non, et de toute façon, il a ouvert après. Il a ouvert en 58. Donc,
Est-ce que c'était déjà un point Godwin à l'époque?
Non.
Pas encore.
Donc vous vouliez faire de la cuisine votre métier, mais vos parents vous ont poussé à faire des études. Du coup, vous avez poussé les études vraiment jusqu'au bout pour devenir enseignant-chercheur.
Oui.
Donc vous êtes vraiment allé jusqu'au doctorat, voire au-delà.
Oui.
En chimie.
Oui.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'UTBM.
Oui.
L'enseignement, c'est pour rendre hommage à votre homonyme Gérard Klein?
Non, c'est pour le plaisir d'enseigner.
Et le fait, justement, finalement, de ne pas avoir réussi cette ambition d'être cuisinier, comment vous vivez cet échec? Parce que finalement, de cuisinier à enseignant-chercheur, c'est raté, quoi.
Oui, mais la chimie, et je fais toujours un peu de cuisine, rassurez-vous. Tous ceux qui travaillent avec moi pourront vous dire qu'ils aiment bien que je les invite et que je leur prépare des petits plats bien sympathiques.
Oui, puis la chimie, c'est un peu pareil, on mélange des ingrédients et puis si on oublie, ça crame tout.
Voilà, il faut toujours faire des bons mélanges.
Est-ce que vous êtes venu en moto comme Victor Novak?
Ah non, je suis venu en voiture.
Sous la neige, c'était pas trop difficile?
Ça va très bien.
Rassurez-moi, vous avez un rapport avec le vétérinaire du Club Dorothée ou pas?
Même pas, non, rien du tout, non, voilà.
Et sinon, votre couleur préférée? C'est quoi?
Le bleu.
Ah, évidemment.
Le bleu clin. Sinon, j'ai une question de chimie pour voir si vous n'êtes pas un imposteur. Petit M égale.
Petit quoi?
Petit M égale.
Oh, petit M, la masse, si vous voulez, la masse atomique, plein de choses.
Et comment on la calcule? Et avec un produit? Enfin, petit M égale machin fois quelque chose.
Oh là là, alors là, je ne sais pas ce que vous voulez
le dire. Le calcul de masse molaire, la formule.
Ah, le Roger, alors à ce moment-là, ça va.
Ouais, j'ai oublié les termes techniques, je me souviens
que c'est pour ça si vous. Non, mais il n'y a pas de problème, vous savez. J'ai l'habitude de travailler avec beaucoup d'étudiants, donc je peux vous former aussi un peu, s'il n'y a pas de problème.
Donc, la masse molaire, comment on la calcule?
On va la calculer en prenant le nombre de moles et le nombre en multipliant par le nombre d'Avogadro, voilà.
Magnifique. Ça fait plaisir un peu de culture quand même.
Non, mais c'est ça, c'est bien. Il n'y a pas de problème.
Peut-être qu'il y a des lycéens qui nous écoutent, ça sera utile pour le bac S.
Petit M égale grand M fois N, c'est plus facile à retenir pour vous les bacheliers. Donc en 91, vous vous installez à Taillecourt.
Oui.
Charmante bourgade du pays de Montbéliard. Oui. Attention, jeu de mots d'une amplitude incommensurable. Est-ce que les barbus sont bien vus à Taillecourt?
Oui, c'est pour ça que j'essaye au maxima de la tailler court.
Est-ce que c'est vrai aussi qu'à Taillecourt, on peut pas avoir de haie plus haute qu'un mètre cinquante, c'est-à-dire la taille du président de la République?
C'est dans le poste, mais on peut monter jusqu'à 1m80, rassurez-vous.
Est-ce que c'est vrai, comme on a coutume de dire dans le pays de Montbéliard, que si aujourd'hui on taille court, demain on rase gratos?
Ça, je suis pas sûr.
Ah, c'est ta question, Michel.
Alors, j'ai noté également qu'en 88, vous avez obtenu le prix national de la santé française d'énergie nucléaire, qui récompense donc le meilleur jeune chercheur dans le domaine de la recherche sur l'énergie nucléaire.
Oui.
Et que de 90 à 2000, vous avez travaillé sur les mesures des conséquences de Tchernobyl en France notamment, en Russie, en Bulgarie et en Roumanie également.
Oui.
Est-ce que vous êtes toujours convaincu par l'énergie nucléaire ou pas?
Oui.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que je considère que aujourd'hui, dans les différentes sources d'énergie qu'on peut utiliser, l'énergie nucléaire fait partie de celles qui sont, on va dire, le plus utilisables. Alors bien sûr, ça n'empêche pas de travailler. Hein. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, moi j'étais un chercheur dans le nucléaire, mais pour faire des mesures dans l'environnement. Hein, donc j'ai inventé des appareils de métrologie nucléaire, et donc pour bien justement identifier et utiliser les radioéléments naturels ou artificiels pour comprendre leur migration, le risque pour l'homme et la nature.
Et le fait qu'il y ait eu Fukushima l'année dernière, ça n'a pas un peu ébranlé vos convictions dans le nucléaire?
Mais, si vous voulez, justement, en faisant de la métrologie, le but, il est justement d'essayer de contrôler, d'essayer d'optimiser au maxima pour faire ce qu'on appelle de la radioprotection, pour éviter que cette énergie soit utilisée de manière, on va dire, dangereuse pour l'homme.
Est-ce que c'est vraiment contrôlable, le nucléaire?
C'est contrôlable si on fait beaucoup attention, c'est le travail de chercheurs comme moi de mettre au point des techniques pour être attentif.
Quand on mesure, c'est pas trop tard?
Si vous voulez, on peut aussi mesurer dans les centrales nucléaires elles-mêmes, et donc de veiller à ce que la sécurité soit toujours au maximum.
Parce que en fait, aujourd'hui, on avait tendance à dire que les centrales en Europe étaient plus sûres qu'au Japon du fait d'être moins exposées à des catastrophes naturelles. Or, il n'y a pas pas plus d'un mois, on nous apprend qu'il y a un volcan qui risque d'exploser sous un lac en Allemagne, que les volcans d'Auvergne, on sait qu'ils peuvent se réveiller à tout instant. Est-ce que finalement, c'est pas un peu utopiste de dire les centrales sont fiables parce qu'une catastrophe naturelle, dans tous les cas, elle pourra relâcher à ce moment-là, qu'il y ait un double impact finalement, catastrophe naturelle plus risque nucléaire.
Bien sûr, mais là on est dans le domaine un petit peu industriel où, et de la nature. Enfin, moi qui suis un spécialiste vraiment de l'environnement, je peux dire qu'on n'a pas de fiabilité à 100%. Si on avait la fiabilité à 100%, ça serait merveilleux. Mais on a la même chose avec une centrale au charbon. Si vous avez, alors bien sûr, il n'y a pas les conséquences à aussi long terme que des radioéléments.
C'est ça.
Mais c'est le risque industriel. Après, justement, il faut le minimiser au maximum. Il faut faire attention au niveau des constructions et tout ça.
Donc pour vous, le jeu en vaut la chandelle quand même.
Oui.
Pas sûr que tout le monde soit d'accord avec vous.
Ouais, non, mais il
la
faut
France
bien,
se divise en deux sur ces questions.
C'est la pluralité, hein, il faut qu'on puisse comme ça débattre.
On va passer à la partie politique de votre biographie. En 95, vous décidez de vous joindre à Jacques Pourtier, que je ne connaissais pas avant de lire votre site internet, qui était le maire de Taillecourt,
oui,
pour apprendre les rudiments de la politique locale. Il avait une étiquette politique, cet homme-là ?
Il était, on va dire, de droite, mais sans plus, et il faisait une politique comme j'essaye de la faire, qui est à l'écoute des gens, et pour satisfaire, on va dire, un maximum de personnes.
C'est-à-dire une
fonction.
Droite chrétienne ?
Sans doute chrétienne, vous savez, on peut être de droite, et après, les idées religieuses sont un autre part, hein. J'ai pas d'a priori fort là-dessus.
D'accord. Vous avez adhéré quand au Parti Radical ?
Au Parti Radical, j'ai adhéré il y a 2-3 ans, quand j'avais envie de faire un petit peu plus de politique, on va dire à un niveau un peu plus haut, et en France, il est difficile sans avoir une attache politique, et je trouvais que Jean-Louis Borloo, lorsqu'il a repris le Parti Radical, proposait un chemin intéressant pour un homme politique.
Mais Jean-Louis Borloo, il est pas trop nucléaire ? Non,
il est pour l'environnement, il est comme moi. Je pense que l'énergie nucléaire est dans notre programme une possibilité actuelle.
Et quand vous êtes rentré au Parti Radical, il y avait une soirée open bar ?
Non.
Moi, j'aurais cru.
Moi, ouais, j'aurais bien aimé aussi.
Depuis 2001, vous êtes maire de Taillecourt. Et depuis 2008, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, délégué dans le secteur du développement économique en charge, notamment de l'accompagnement de la pépinière et des hôtels d'entreprise. Déjà, c'est pas trop long comme titre. Ben et
oui.
En plus, ce qui est rigolo, c'est que dans ce titre, il y a pépinière qui fait penser à l'arboriculture, hôtel qui fait penser à l'hôtellerie, et entreprise qui fait penser à l'industrie aux services, alors que cela ne concerne que l'industrie et les services.
Oui. Mais si vous voulez, pépinière, c'est très lié à mon rôle aussi d'enseignant-chercheur. Ben, c'est de faire que des jeunes créateurs d'entreprises puissent se développer, puissent s'installer dans le pays de Montbéliard et qu'on puisse les aider à se développer en les conseillant, en les encadrant, en vraiment les formant à devenir de futurs chefs d'entreprise.
Alors, une petite question pour moi qui suis du pays de Montbéliard. Pour quelqu'un qui, justement, n'est pas du pays de Montbéliard et qui n'a jamais travaillé en usine, ça se passe bien avec les industriels ?
J'ai travaillé en usine, rassurez-vous, j'ai travaillé dans le commerce et autres, et vous savez, une fois que vous avez travaillé dans un restaurant, vous savez ce que c'est que, on va dire, les gens qui travaillent longtemps dans leur journée, dans leur week-end et tout, et je pense que la formation que j'ai appris, on va dire, sur le tas, même si j'ai fait des études après, me reste toujours collée à moi.
Enfin, c'est quand même pas tout à fait pareil d'être à l'usine et d'être en restauration quand même.
C'est vrai, c'est peut-être plus facile d'être dans une usine ou dans la restauration.
En termes d'horaire, c'est sûr, après, en termes de pénibilité, ça, les deux se valent.
Ah, je vous conseille alors à ce moment-là d'aller travailler dans un restaurant à la cuisine ou à la plonge pendant quelques heures et vous verrez, la pénibilité existe aussi là.
Hein. Ah ben, je ne dis pas, mais moi j'ai fait que l'usine malheureusement.
Moi j'ai fait les deux, et ça se vaut. On va passer à l'actualité locale, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose.
Non, c'est très bien, moi je trouve que vous avez très bien fait votre travail.
Ah oui, c'est même pas mon travail, je suis bénévole. Hein.
Alors vous êtes un très bon bénévole.
Donc l'actu locale, c'est pas forcément de l'actu, mais sur Twitter, le compte du Parti Radical du Doubs utilise 90% de ses messages pour dire des saloperies sur Pierre Moscovici. Est-ce que c'est une façon noble de faire de la politique ?
Oh, on dit pas que des saloperies. On a un petit côté, on va dire, le Parti Radical et les gens qui sont avec moi sont des militants. Vous savez, un militant, il aime bien exprimer ce qu'il pense, un peu comme vous, je pense, j'espère en tout cas.
Oui.
Et donc, il est en direct et ils expriment en direct. Alors, c'est vrai que un de nos adversaires est Pierre Moscovici, c'est lui qui en prend. Mais on essaye quand même, enfin, j'essaye de leur dire d'être un peu plus tolérant parfois, mais vous savez, c'est peut-être comme avec vous, c'est pas toujours facile, hein, donc de le faire.
Moi, je parle pour moi, je suis très corruptible, hein, je change d'opinion comme
ça. Ah non,
hein.
On n'a pas de corruption, nous.
Est-ce que là, à l'antenne, En exclusivité pour tout le monde, vous pourriez faire un compliment sur Pierre Moscovici.
Ah, c'est un homme politique de haute volée.
De haute volée, c'est-à-dire
il joue a une formation. C'est un, si vous voulez, par rapport à moi qui est encore en train de débuter, qui apprend vite, c'est quelqu'un qui a une formation parisienne très forte et c'est vrai qu'il est sa vie professionnelle est la politique.
Mais c'est aussi son inconvénient, ça, le fait qu'il vienne de Paris, non?
Ah, c'est un choix, oui, c'est un inconvénient, surtout c'est un choix qu'il a fait lui, hein, c'est d'être un homme politique et faire de la politique son métier, et voilà, on peut pas, j'irai pas beaucoup plus loin là-dessus, hein, c'est un choix qu'il a fait, il a choisi après, ou son parti après a choisi Montbéliard pour qu'il s'installe, et voilà, donc il est là, on fait avec.
Il réfléchit beaucoup en tout cas, hein, son crâne légarni le prouve.
Ah, peut-être, j'espère qu'il réfléchit, mais c'est sûr, hein, c'est un homme plein d'expérience.
On a son numéro, vous voulez qu'on l'appelle ?
Oh, il n'y a pas de problème.
Oh, je le fais. Non, mais en fait, il ne répond pas. Il ne m'aime pas. Il ne me connaît pas, surtout.
Ouais.
Donc, vous êtes candidat aux législatives dans la 4e circonscription du Doubs, tenue actuellement par Pierre Moscovici, justement.
Oui.
Vous êtes candidat au nom du Parti radical, mais vous êtes tout de même postulé pour être le candidat de l'UMP.
C'est l'UMP qui m'avait demandé si, et j'avais accepté, on va dire, leur demande d'étudier mon cas. Mais on va dire la suite logique a fait que l'UMP a choisi un autre candidat et c'est la démocratie, ce que je respecte complètement, comme je respecte l'autre candidat de l'UMP qui est proposé.
La décision a été prise là.
Oui.
C'est Monsieur Demouge.
Oui.
Voilà.
Vous seriez senti à l'aise avec cette étiquette UMP?
On va dire si j'aurais préféré que l'UMP ne mette personne et que nous on garde notre étiquette, on va dire de centriste du Parti radical. De toute façon, si je suis au Parti radical, c'est que je me sentais pas complètement bien dans l'UMP.
Mais le Parti radical fait quand même partie de l'UMP.
Le Parti radical, historiquement, est un des créateurs de l'UMP. Et je pense que c'est pour ça qu'on partage comme les idées de droite, hein. Faut pas non plus être contre tout ce qu'on peut imaginer. Mais par contre, c'est vrai que il y a des décisions ou des, comment dire, un regard sur le monde qui n'est pas exactement identique.
Ouais, bon, on en parlera après quand on élargira l'échelle. On va rester un peu dans le coin, quoique. Justement, si vous êtes élu, il y a quand même très peu de chances, hein, on va être imaginatif. Que ferez-vous de votre rémunération? C'est la question que je pose à tous les candidats aux législatives que j'ai ici.
À quel niveau?
Votre rémunération, la rémunération qui vous sera donnée en tant que député.
Ah ben, l'indemnité aussi.
Ben, je l'utiliserai pour faire un maximum de travail sur la circonscription pour que les gens et on va dire pour pouvoir aller les voir, pour pouvoir discuter, pour les aider aussi puisqu'on a quand même une aide parlementaire et puis donc d'avancer comme ça. Après et pour vivre, venir, je serai obligé au niveau de mon travail de parce que je suis toujours enseignant chercheur quand même. Je suis pas en retraite et donc de me mettre en disponibilité pour me consacrer à 100% à ce travail.
Vous voyez un mandat de député vous comme plutôt un mandat local ou un mandat national parce que là vous entendre ça serait presque un mandat local quoi.
Si vous voulez c'est un mandat où on défend des idées nationales mais on doit aussi être présent auprès des gens qui vous ont élu sur le terrain. Vous savez il y a beaucoup de gens là je le connais bien en tant que maire hein, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les administrations avec beaucoup de problèmes et donc ils viennent vous voir, il faut les aider, on peut les aider au niveau local quand on est maire, on doit les aider au niveau national quand on est
d'ailleurs député. Si vous êtes élu, est-ce que vous quitterez votre mandat de maire?
Je me mettrai dans le conseil municipal. Je pense que je finirai jusqu'en 2008, mais ensuite, j'aiderai l'équipe et j'aiderai une équipe à diriger ma commune.
Donc vous serez député maire quand même un temps.
Si vous voulez, sur la fin, hein, ça va assez vite. Hein, il ne reste plus beaucoup de temps pour le renouvellement des municipales.
Si vous êtes élu député. Quel serait le premier projet de loi que vous déposeriez si ça tenait qu'à vous?
Ça tenait qu'à moi. Je pense que je travaillerai beaucoup sur la partie enseignement supérieur et donc pour, on va dire, améliorer. On l'entendait hier soir de notre président, la partie apprentissage, alternance, pour mieux travailler et mieux faire que nos étudiants soient formés pour travailler dans le domaine de la recherche industrielle.
Justement, en parlant de ça. Les personnes qui sont en doctorat, qui sont de milieu pauvre, on va dire, enfin de milieu populaire, ont droit à aucune aide quand on est en doctorat, enfin une petite bourse qui est vraiment loin de tout ce qu'on peut vivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait quand même rémunérer les doctorants qui font quand même de la recherche à leur niveau?
Ah, alors là, vous avez peut-être moins bonnes informations, puisque ne pas oublier que la rémunération, l'allocation de recherche qui est mise pour un doctorat aujourd'hui, pour ceux qui l'ont, alors il y en a peut-être pas assez d'allocation de recherche, mais par contre, pour ceux qui l'ont, elle est largement supérieure au SMIG. Alors c'est évident qu'on n'a pas les moyens. Moi, je l'ai eu, hein, j'en ai eu une à l'époque. C'était ça correspondait exactement à ce que vous disiez. Il y a une vingtaine d'années, on avait des rémunérations, on va dire très faibles. C'était plutôt symbolique que réel. Mais aujourd'hui, il y en a le montant de l'allocation de recherche pour faire un doctorat est, on va dire, à mon sens, suffisante pour qu'un étudiant puisse vivre. Par contre, leur nombre est encore limité, surtout dans des sciences, on va dire, non scientifiques.
Hein, ça paraît dans le littéraire. J'ai un ami qui est dans une science humaine, on va dire, mm-hmm. et qui, je crois qu'il a eu 5000 euros pour 2 ans, un truc comme ça.
Ah non, là, ça veut dire qu'il n'a pas une allocation de recherche. Il a pu avoir une aide peut-être du département ou de la région, mais sinon, une allocation de recherche aujourd'hui, c'est autour de 1600 euros par mois.
Et est-ce qu'on peut vivre dans de telles conditions? Est-ce que c'est normal de traiter la future élite de notre nation comme ça?
C'est pour ça que je pense qu'il y a du travail à faire pour qu'on se donne les moyens et qu'on donne les moyens aux universités de se développer en aidant justement nos futures têtes pensantes hein, en doctorat, que ça soit en humanité, en littéraire ou en sciences.
Donc on va revenir dans la région parce que je m'écarte un peu du sujet, mais est-ce que ça vous choque aussi quand vous lisez dans les journaux récents que l'emploi se porte bien en Franche-Comté alors que la hausse des demandeurs d'emploi est certes moindre que dans notre région à l'échelle nationale, mais tout de même assez importante. Ça fait, pour les derniers chiffres de Pôle emploi, 1,6% de hausse de demandeurs d'emploi.
Alors ça, c'est un des problèmes sur le pays de Montbéliard auquel je suis confronté pratiquement tous les jours, hein, c'est d'aider, de voir qu'on a une situation qui n'est pas catastrophique, mais une situation qui malheureusement entraîne de la perte d'emploi. Là encore une fois, il y a un gros travail à faire au niveau général. Hein,
On peut dire merci les Suisses, parce que c'est quand même eux qui ont pas mal embauché ces dernières années, et ça a quand même diminué le chômage dans notre région.
C'est vrai, il y a les Suisses, mais également, je dois dire, les efforts de l'ensemble des collectivités, parce que même si la région est de gauche aujourd'hui, Denis Sommer fait un gros travail aussi pour essayer d'aider à préserver l'emploi. Hein, l'État fait un gros travail. On va dire, il y a vraiment un travail sur notre région très industriel global pour qu'on essaye de préserver des emplois.
D'ailleurs, on dit merci les Suisses, même s'ils viennent mettre leurs déchets chez nous. Hein. D'ailleurs, en parlant de pollution, il y a un thème qui est très important dans le pays de Montbéliard, on n'en parle pas beaucoup, c'est la pollution du gland.
C'est pas le smegma.
Non, mais le gland se porte mieux quand même. Hein.
Et en fait, au-delà de la pollution donc du gland, qui est quand même notable, comment on peut finalement allier industrialisation et environnement, notamment dans le pays de Montbéliard, qui est quand même très, très touché par les deux?
Ben, si vous voulez, le pays de Montbéliard, c'est vrai que l'industrie, surtout autour de l'automobile, a souvent été source de pollution. Les traitements de surface, tout ce qu'il pouvait y avoir autour. Aujourd'hui, le développement de réglementation sur la protection de l'environnement fait qu'on travaille à améliorer la qualité des traitements de surface. Là, c'est mon côté chercheur, donc je connais bien aussi. Et on développe ce qu'on appelle des systèmes et des procédés propres pour avoir le moins de pollution possible.
D'ailleurs, à Montbéliard, il y a un pôle voiture du futur, non?
Oui. Véhicule
du futur. Comment ça se fait qu'on est en l'an 2000 et les voitures volent toujours pas?
Eh ben, c'est que vous voyez, on n'a peut-être pas assez donné de bourse à des chercheurs et donc on n'a pas assez de chercheurs pour les réussir à les faire voler et consommer un carburant propre.
Est-ce que vous pensez, vous, justement, en tant qu'enseignant chercheur, que les pressions des lobbies, que ça soit des pétroliers ou des constructeurs automobiles, a freiné justement cette recherche pendant de nombreuses années, ou est-ce que on n'aurait pas pu faire mieux dans quoi qu'il se passe?
Le problème, c'est dans l'industrie, dès que vous développez quelque chose ou dès qu'un chercheur développe quelque chose, il y a un temps d'amortissement de la partie recherche. Et ce temps d'amortissement, c'est vrai que ça je ne vais pas dire ça empêche, mais ça, ça fait qu'il y a des choix qui sont faits. Hein. Enfin, moi, je crois encore, même si je travaille aussi sur la partie automobile électrique, toujours au moteur, on va dire, classique, hein, diesel ou essence, et qu'on peut encore l'améliorer, étant avec moins de pollution et une efficacité toujours identique.
Encore une fois, là, on est un peu digressé, mais on va revenir sur le local. Vous avez fait quoi au Nouvel An cette année ?
Au Nouvel An, j'étais chez mon frère.
D'accord. Est-ce que la décision qui a été prise par le maire de Montbéliard, Monsieur Elias, de supprimer la manifestation qui avait lieu tous les deux ans, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous pensez comme lui que c'est quelque chose qui coûte beaucoup trop d'argent par rapport à ce que c'est ?
Ah, moi j'aurais aimé qu'il y ait une animation. Je pense, vous savez, dans les petites communes, on fait des animations en essayant d'être le moins dispendieux possible parce que ma commune, on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. On est une toute petite commune rurale. Et pourtant, on arrive à faire des belles choses. Et je pense qu'à l'occasion du Nouvel An, pour Montbéliard, cette fête au centre de la ville était vraiment quelque chose d'important. Et je regrette beaucoup que Jacques Elias ait décidé cette suppression.
C'est dommage, parce que c'est vrai que ça avait une renommée... Il y a des compagnies qui font quelque chose qui est bien, qui est un peu national, puis qui change un peu l'image de Montbéliard.
Exactement, je suis 100% d'accord avec vous.
On va rester dans le local, enfin le local surtout de chez vous. Et Michel vous a préparé un petit questionnaire pour savoir si vous êtes au fait à propos du football club Sochaux-Montbéliard.
Ah, beaucoup moins.
Ah, parce que c'est quand même important pour beaucoup dans le pays de Montbéliard.
Non, mais je suis un rugbyman, moi, à l'origine. Donc là, vous savez, c'est difficile, le football, pour moi.
Ah, ça va être tendu, alors, pour la quatrième.
Oui.
En tant que transfuge, donc, dans le pays de Montbéliard, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous savez qui était Auguste Bonnal?
Oui, parce que le stade de foot porte son nom. Donc, c'était un résistant, mais voilà.
En fait, c'était un des directeurs de l'usine.
Voilà.
Qui a été déporté pour sabotage et fusillé par la suite.
Exactement.
Ça fout l'ambiance, ça.
Est-ce que vous savez qui a composé l'hymne du club?
Non.
Oh, c'était les Pacemakers qui avaient fait ce fabuleux hymne très, très années 80. Et comme Hervé Morin, on se souvient tous du dernier titre de champion de France de Sochaux. C'était en quelle année?
Je ne me rappelle pas que Sochaux était champion de France, mais si vous le savez, je me rappelle de la Coupe de la Ligue, mais pas du championnat de France.
C'était en 1938.
J'étais pas né, c'est pour ça.
On l'a tous dans l'ADN quand on est pays de Montbéliard.
Pas besoin d'être né pour l'avoir vu, comme Hervé Morin avec le débarquement de Normandie.
Oui, non, mais c'est vrai qu'on est d'accord là-dessus, mais vous savez, c'est ça la politique. Parfois, on se laisse emporter.
Bon, alors la dernière question va peut-être tomber à l'eau, mais bon, parce que ça soit sur le terrain ou dans la vie politique, voire même dans les usines, on n'a jamais eu peur à Montbéliard de recourir à des techniciens étrangers. Et vous, à quel joueur vous identifieriez aujourd'hui du FC Sochaux?
Ah, moi, plutôt à ceux qui ont marqué un peu mon enfance, à Gengini.
D'accord. Et Pierre Moscovici, vous l'identifieriez à qui?
En footballeur?
Oui.
Difficile de dire comme ça. Allez, on va dire Stopira, parce qu'il court beaucoup.
Pas mal.
On va continuer les questionnaires décalés. Donc le suivant, vu que vous êtes au centre, je me suis dit que c'était très bien de faire un questionnaire qui permettrait de savoir si vous êtes de gauche ou de droite, avec des choix très faciles à faire, vous inquiétez pas. Et donc le gage, si vous n'arrivez pas à vous décider entre les deux propositions, je vous fais deux propositions, et si vous n'arrivez pas, vous devez encore faire des compliments à Pierre Moscovici. Alors vous préférez abolir le SMIC ou mettre en place un ratio de rémunération entre le moins payé et le plus payé de l'entreprise?
Le ratio.
Et qui serait de combien?
D'un minima, on va dire, pour que l'ensemble de la population puisse avoir quelque chose pour vivre dans notre société actuelle.
Combien? Un 20, un 100, un 30?
Oh, je pense qu'un 50, ça serait bien.
Un 50? Ouais. On est à plus de 100 actuellement, non?
Oui, mais justement, je pense que c'est un peu une de mes idées à moi de penser que il y a peut-être un petit peu trop de disparité dans certains cas et que donc il faut on va dire mériter son salaire, mais qu'on mérite pas automatiquement n'importe quoi comme salaire.
Ouais, vos idées doivent pas être très appréciées à l'UMP.
C'est peut-être pour ça qu'ils m'aiment pas trop.
Michel?
Oui, d'ailleurs, les ratios étaient en place au FC Sochaux un temps.
Vous préférez envoyer tous les riches en Suisse ou envoyer tous les pauvres en Roumanie?
Connaissant à la fois très bien la Suisse et la Roumanie, je les enverrai nulle part.
Donc, un compliment sur Pierre Moscovici.
Il met de belles cravates.
Alors, la suivante. Vous préférez infliger la peine de mort à un violeur d'enfant ou le réinsérer par l'emploi dans une crèche? Un choix très simple.
Je suis contre la peine de mort, donc c'est difficile pour moi. Et je ne suis pas sûr que les parents seraient d'accord pour les mettre dans la crèche. Donc,
voyez, donc c'est, un compliment sur Pierre Moscovici.
Il met aussi des beaux costumes.
Vous préféreriez voter Mélenchon ou Marine Le Pen?
Jamais Marine Le Pen, donc c'est clair, donc Mélenchon.
Vous préférez écouter Michel Sardou toute la journée ou écouter Maxime Le Forestier toute la journée?
J'aime bien Michel Sardou.
Ah, vous restez à droite. Parce que vous étiez déporté, là vous étiez beaucoup plus à gauche qu'à droite. Vous préférez interdire les transactions boursières ou vendre l'État au plus offrant?
C'est vraiment des questions très blanches ou noires. Hein,
ah mais... oui, c'est pour...
J'attends, si vous voulez, l'un et l'autre ne peut pas se faire, à mon avis, pour
c'est Pierre Moscovici
le bien
qui
du citoyen. Donc, ils mettent belles chaussures, si vous voulez, après, comme ça, on ira la rhabiller.
Vous préférez supprimer les minima sociaux ou supprimer la police? Enfin, ou on va dire les réduire, les deux. Que ce soit plus facile à choisir.
Si vous voulez, je pense qu'on peut pas réduire la police, donc je serais obligé, si j'étais contraint l'un et l'autre, à réduire les minima sociaux, mais ça m'emmerderait vraiment.
Donc à laisser mourir certaines personnes de faim.
Et justement, c'est ça qui m'ennuierait beaucoup.
Vous préférez privatiser les hôpitaux ou faire rembourser l'homéopathie par la sécurité sociale?
Ouais, à ce moment-là, je vais privatiser les hôpitaux.
Ah ouais, quand même. Mais oui. Globalement, on remarque quand même que vous êtes presque, là pour le coup, bien presque de gauche, hein, sur le questionnaire. Est-ce que au final, vous auriez plutôt tendance à soutenir Hollande que Sarkozy?
Ah non, si vous voulez, c'est pas que je soutiendrais, on va dire, Sarkozy à fond dans le fond, mais par contre, beaucoup de propositions d'Hollande me plaisent pas. Parce qu'elles sont pas économiquement viables.
On en parlera juste après. On va continuer à se détendre un peu, puis après on rattaquera le dur des choses. On va déjà savoir si vous feriez un bon dictateur. C'est un questionnaire simple. On vous met en situation, vous arrivez dans un pays X ou Y où seuls les dirigeants politiques ont le droit de porter la barbe. Suite à une alliance de partis où seuls deux mouvements politiques subsistent, ils décident donc de jouer le pouvoir à Shifumi. Malheureusement, à chaque tour, les deux représentants des formations politiques jouent la même chose. Et ça dure des heures, des jours, des nuits. Pour finir, tous les représentants politiques décèdent. Le peuple de ce pays, voyant que vous êtes le seul à arborer une pilosité faciale, décide de vous mettre à la tête de ce pays et vous en devenez donc dictateur. Déjà heureux?
c'est pas ma manière de fonctionner en démocratie, mais si le peuple le veut.
Alors, quelle serait votre première mesure en tant que dictateur?
En tant que dictateur, de garantir un minima de vie à chaque habitant.
C'est pas très centriste, ça non plus.
Mais on peut être social et centriste, hein.
Vous faites rien pour nettoyer le charnier de dirigeants politiques?
Si vous me dites qu'on les a pratiquement tous détruits, c'est plus la peine de le nettoyer.
Non, ils décèdent.
Oh, parce que ça sent mauvais quand même.
Ouais, ils sont là, ils sont tous.
Oui, mais on mettra un petit peu de quelques produits chimiques dessus, voilà.
Comment vous appelleriez l'unique organe de presse du pays à la botte de votre pouvoir?
La liberté.
Moi, j'aurais pensé à Radical, comme le magazine de hip-hop avec un K.
Justement, j'aime pas quand on pense pour moi.
Ouais, mais Radical, ça... vous connaissez ce magazine, le magazine de hip-hop qui s'appelle Radical?
Non.
Pas très hip-hop, hein. Quel nom de dictateur choisiriez-vous? Vous savez, il y en a qui se font appeler fourreur, des trucs comme ça.
Très bonne question. Comme ça, j'en ai pas tout de suite. C'est con, hein, d'avoir de pas avoir d'idée tout de suite.
Mais vous aimez pas que je pense pour vous, mais je vais vous proposer l'instit pour rendre hommage à votre homonyme.
Le grand dissolvateur, rapport à la chimie.
Ouais, ou peut-être.
Le grand dissolvant.
Le barbu, comme ça on va être tranquille. Si le peuple aime bien la barbe.
El barbudo, comme Guevara.
Alors, ouais, j'aime bien chez Guevara aussi.
vous me surprenez. Quel moyen utiliseriez-vous pour entretenir le culte de votre personnalité?
Le culte de ma personnalité, je ferai comme un bon dictateur, je passerai tous les soirs à la télévision, et puis je dirai au peuple que c'est le plus beau des peuples et que je travaille pour lui.
Par rapport à ça, quand même, Nicolas Sarkozy s'est calmé, mais une époque où il faisait pas mal le dictateur en passant tout le temps à la télévision, non?
Oui, mais si vous regardez à travers toutes les... C'est grâce aux médias, hein, c'est les médias qui attirent les hommes politiques.
Les deux sont coupables.
Ensemble, après.
Ok. Quel pays choisiriez-vous comme partenaire économique privilégié?
Aujourd'hui, pour se développer bien, la Chine.
Même malgré leur politique, par rapport à la liberté, au traitement des classes...
Si vous allez un peu en Chine pour y aller beaucoup, je peux vous garantir qu'ils sont beaucoup plus capitalistes aujourd'hui et que le développement économique est beaucoup plus fort là-bas qu'aux États-Unis.
Oui, mais les classes ouvrières vivent très mal quand même.
Ah, complètement.
Est-ce que vous y allez à pied en Chine?
Vous m'avez bien dit pour un développement économique.
Oui. Moi, je vous aurais aussi suggéré dans le même esprit la Hongrie, parce qu'elle est située au centre droit de l'Europe.
Oui, mais alors là, la Hongrie, on va dire, j'aurais beaucoup à dire sur leur gouvernement et leur dernière décision, donc là, non.
Et pas l'Allemagne alors?
L'Allemagne est un beau pays, mais il est très proche de nous.
Trop proche.
Pas trop proche, mais il faut faire attention. C'est un pays qui a son développement. Et encore une fois, si on parle d'économie, il y a des marchés en Allemagne qui seront un petit peu difficiles à obtenir. Alors que, je vous dis, sur un pays comme la Chine aujourd'hui, il y a vraiment des marchés énormes à prendre.
Puis quand même, on peut pas non plus pardonner comme ça l'attentat de Schumacher sur Batiston en Espagne, quoi.
Ah, c'est vrai. C'est votre côté footballeur. Hein. On sent quand même un grand spécialiste là-dessus. Mais je suis d'accord. Hein, je regardais à la télévision à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était vraiment de l'attentat.
Ah, moi, mon problème avec l'Allemagne, c'est la guerre de Prusse. Je m'en remettrai jamais.
Ah oui, mais c'est parce que vous étiez déjà né, vous, peut-être.
Ouais. Comme Hervé Morin.
quelle population extermineriez-vous? C'est la question la plus facile.
La population que j'exterminerais en tant que dictateur? Ceux qui ne veulent rien faire.
Si c'est salaud d'assister?
Non, pas les assister, ceux qui ne veulent rien faire, pas automatiquement les assister. Il faut assister des gens parfois, vous savez, nos sociétés sont très difficiles.
Mais vous dites ceux qui ne veulent rien faire, mais est-ce que, pour en connaître personnellement, est-ce qu'ils ne peuvent pas rien faire? Est-ce que c'est pas un problème psychologique ou...
Il y en a qui vivent du plaisir de ne rien faire.
Ou peut-être que le travail les opprime tellement qu'ils peuvent pas le supporter.
Ah, peut-être, à ce moment-là c'est un autre regard à avoir, mais c'est vraiment, c'est pour ça peut être une minorité très faible, mais vraiment si des gens veulent absolument rien faire et pas se donner un petit peu de force là-dessus, on pourrait les éliminer.
Si c'est une minorité très faible, pourquoi l'éliminer, quoi?
Voilà, mais c'est vrai, mais c'est vous qui avez proposé de les éliminer. Hein.
Et vous les extermineriez comment alors, ces salauds de feignants?
Ah, c'est mon côté qui est... Je les enverrais pas en Sibérie parce que j'y ai vécu quelques années et je trouve que c'est un super beau pays. Je les enverrais dans le Nebraska.
Et pourquoi pas les dissoudre, vu que vous êtes chimiste, vous auriez des facilités?
Oui, mais parce que j'ai un côté membre de la SPA et donc...
donc c'est des animaux, les gens qui ne veulent pas travailler?
Ah bah non. Je dis les gens qui veulent absolument rien faire de leur vie.
Ok, donc on va terminer cette dictature. Je voulais juste faire une remarque. On est à une heure quand même où il y a que des gens qui peuvent pas travailler qui nous écoutent. Ils vont être contents. Votre pouvoir.
J'ai pas dit qu'ils voulaient pas travailler. C'est des gens qui veulent absolument rien faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent travailler et qui ne peuvent pas travailler. Et donc c'est là où c'est eux qu'il faut aider principalement.
C'est sûr. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Mais pas sur le fait que certaines personnes ne veulent rien faire. À mon avis, elles ne peuvent rien faire.
Ah, mais voilà, ça c'est... Il y en a beaucoup qui ne peuvent rien faire, cela il faut les aider. Mais il y en a aussi qui vraiment ne font rien. Ça, je peux le garantir en tant qu'élu.
Donc, votre pouvoir est en déclin.
Eh ben voilà. Si je suis déclin, c'est bon, c'est moi, ça va.
Ah oui, c'est vrai. Et vous décidez courageusement de vous suicider. Quelle méthode choisissez-vous?
Pour me suicider? Je prendrais une méthode douce, on va dire peut-être par médicament.
Euthanasie à la Jean-Michel Bellet, les radicaux, les autres radicaux. moi, je vous aurais proposé la centrifugeuse pour rendre hommage à votre positionnement politique.
Oui.
On va élargir le spectre de l'actualité. Oh, quelle belle phrase. C'est fantastique, hein, on dirait un professionnel. On va commencer par débriefer un peu l'allocution télévisée de Nicolas Sarkozy. Alors, il nous a affirmé une mesure à laquelle on s'attendait. Donc, ils avaient déjà fait un peu la pub à l'UMP, dont vous faites partie, qui est cette fameuse TVA, donc cette augmentation de la TVA pour enlever des cotisations patronales. Oui. Alors, c'est une façon quand même de libérer les patrons, mais tout en impactant le pouvoir d'achat des consommateurs, donc des plus pauvres, qui ont un budget plus élevé en TVA, c'est pas un peu inégal, injuste comme décision?
Non. Je pense que ça dépend comment on le regarde, mais enfin comme on peut l'imaginer avant. Je pense qu'après, alors c'est toutes des mesures à risque. Jean-Louis Borloo, il y a une 6-7 mois, avait essayé de proposer ça déjà à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus difficile en économie pour nos industriels, c'est justement ce que leur coûte la part salariale. Et donc les charges qui sont associées à ça.
Mais alors, pourquoi uniquement baisser les cotisations patronales? Pourquoi aussi pas baisser les charges salariales? Parce que le pouvoir d'achat va être impacté forcément avec une hausse de la TVA.
Si on supprime les parts patronales, automatiquement on donne du mou aux industriels. Et
oui, mais après ils font ce qu'ils veulent. Rien ne les oblige à augmenter les salaires.
On est d'accord. C'est pour ça que je dis bien que c'est une mesure, comme toute mesure, à risque et qu'il faudra bien encadrer et voir comment ça fonctionne. Mais derrière, à mon sens, c'est quelque chose qui aujourd'hui en France, si vous voulez, si on compare, puisque hier soir il y avait une grande comparaison entre l'Allemagne et la France, moi en économie, je regarde beaucoup, et surtout dans le domaine industriel, ce qui se passe en Allemagne et en France. En Allemagne, on a une charge beaucoup moindre pour les industriels, ce qui leur permet d'investir. Aujourd'hui, s'ils investissent, ils vont embaucher des personnels, donc ils vont avoir plus de possibilités et de créer de l'emploi.
Vous
et donc,
qui aimez Sardou, on peut dire que les Ricains, finalement, ils n'ont pas bien fait d'être là, parce que au moins, on serait tous en Germanie aujourd'hui, quoi.
Non, c'est. Je pense que, si vous voulez, la politique allemande n'est pas du tout la même que la nôtre. La population allemande est différente.
Et les conditions aussi de vie pas des ouvriers dans l'industrie, elles sont à peu près équivalentes aux nôtres, mais d'une grande part de la population sont quand même beaucoup moins sympathiques, on va dire, en Allemagne. Le salaire, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec 800, 900 euros par mois.
Dirons-nous que, non, ils sont pas à 800 ou 900 euros, mais les salaires globaux sont, on va dire, sont plus forts. Après, les couvertures sociales étant un peu moindres, on va dire, il y a une équivalence. C'est un peu comme si vous allez travailler en Suisse, hein, vous touchez des plus gros salaires.
Il y a aussi ce travail à 1 euro, là.
Travailler à 1 euro, là, non, on travaille pas à 1 euro.
Non, mais je sais plus, il y a un truc comme ça avec le chômage. Les chômeurs, ils peuvent être employés à 1 euro.
Peut-être pas, hein, si vous voulez, c'est plus en Angleterre, ça, hein, donc, où on a un minima qui n'est perçu que si vous acceptez de faire n'importe quoi comme métier.
Et donc, il voulait aussi revenir sur la façon de négocier les conditions de travail,
oui,
de passer outre le code du travail, on va dire, et de négocier branche par branche.
Branche par branche, mais avec un accord, on va dire, le plus large possible au sein de l'entreprise. Mais c'est pas bête, si vous voulez. Aujourd'hui, on a, dans le pays de Montbéliard, par exemple, on peut avoir des industriels dans le domaine de la mécanique qui ont une grosse commande à un moment. C'est vrai que de pouvoir faire travailler leurs employés un peu plus. Que se passe-t-il dans le pays de Montbéliard aujourd'hui? Quand on a ça, on va prendre des intérimaires. Au bout de 6 mois, on dit merci aux intérimaires parce qu'on a un peu moins de travail. Si on arrive à avoir une population qui a toujours un revenu, on va dire, attendu sur l'année, avec des salaires qui augmentent ou qui diminuent en fonction de la charge de travail, ça peut être aussi une manière de préserver l'emploi.
Ces intérimaires, ils travaillent quand même. Et qu'est-ce qu'on en fait alors de ces gens qui, justement...
Ces intérimaires, ils pourraient devenir, justement, des ouvriers. Essayez, quand vous êtes intérimaire, d'avoir un prêt à la banque pour faire une maison, par exemple. On va vous dire, mais monsieur, c'est impossible.
Même quand on est ouvrier, hein, maintenant.
Ça, c'est un problème des banques, plus que finalement.
Oui, mais c'est un problème. La banque vous demande si vous avez un emploi, qu'on sait que l'emploi, il vous apporte une charge sur l'année, et que donc il y a des variabilités au cours du temps.
Alors, un banquier, vous croyez qu'il va vous dire, attendez, pour calculer le prêt, là, vous allez peut-être pas gagner autant.
Non, mais ça va être une charge lissée sur l'année.
Ça reviendra strictement au même, parce que les banquiers, je pense pas qu'ils vont dire ils vont pas se baser sur les mois.
On peut aussi discuter avec les banques. Vous savez, il y a beaucoup de travail pour les élus d'aller au contact et d'aider un certain nombre de gens dans notre population qui ont vraiment des difficultés pour avoir des prêts, pour faire des choses. Et c'est un travail de tous les jours. C'est ça le travail.
Est-ce
d'un
que vous
élu
pensez
local.
Que vraiment les élus vont pouvoir faire ça?
Moi, je me prêterais à faire ça parce que je considère que c'est vraiment on va dire, on a une population en particulier dans le pays de Montbéliard qui a beaucoup de difficultés financières, et c'est pour ces gens-là qu'il faut qu'on fasse vraiment un gros effort, et donc faut aider les industriels à se développer pour qu'ils puissent les embaucher au maximum, créer de l'emploi et donc permettre à l'ensemble de cette population d'avoir des revenus pour pouvoir se développer et vivre décemment.
Je veux juste revenir sur les syndicats. Ça veut dire que dans des petites entreprises où il n'y aurait pas une force syndicale très puissante, les employés vont se faire enfler, quoi, pour parler vulgairement.
Mais après, je pense, si vous voulez, la mesure, elle n'est pas encore complètement mise en place. C'est vrai que dans des petites entreprises PME, TPE, mais si vous regardez bien, des fois, c'est un peu ça. Il y a la pression est forte. Et donc là, il faudra quand même qu'il y ait des garde-fous pour éviter justement de tomber dans l'extrême.
dans l'esclavage, on pourrait même
l'esclavage,
dire.
L'esclavage, je suis d'accord avec vous.
Il a aussi annoncé une mesure sur le logement. Est-ce que c'est pas un peu tarte à la crème, cette augmentation-là? Puis est-ce qu'on peut se demander s'il ferait pas un petit cadeau à son filleul, hein, parce que je crois qu'il est parrain du fils Bouygues, d'augmenter comme ça la quantité de constructibles? Est-ce que c'est pas un petit peu tarte à la crème comme mesure?
Alors, c'est la seule mesure sur laquelle je suis très dubitatif en tant que maire. Si vous voulez augmenter le COS de 30%, ça veut dire que on va faire sur un terrain constructible plus d'habitat, et ça veut dire qu'on va réduire l'aménagement, on va dire un petit peu environnemental autour. Là, c'est à mon sens peut-être dangereux. Donc, c'est une mesure que je prendrais plus avec des pincettes aujourd'hui.
Ok. On peut encore des questions sur. On va pas parler de la forme, on va pas parler de sa candidature, on s'en fout, on le sait tous.
Moi aussi.
On va donc passer au positionnement du Parti Radical. Est-ce que le Parti Radical arrive à faire entendre sa voix à l'UMP? On a vu que Ramayad et Jean-Luc Borloo ne sont pas toujours en accord avec la droitisation de l'UMP, surtout au niveau sécurité et immigration, mais restent dans cette formation politique. Pourquoi? Ils espèrent encore être ministres ou ils veulent avoir des sièges de député?
Ni Jean-Louis Borloo ni Ramayad ne sont dans l'UMP. Hein. Depuis à peu près plus de 6 mois, Jean-Louis Borloo...
Ils ont toujours leur carte.
Non. On a tous... de toute façon, depuis le 1er janvier, on a le choix, c'est où on est PRV ou on est UMP. Hein. On n'est pas les deux.
Ouais,
donc
d'accord.
Après, par contre, il y a des tolérances. L'UMP a accordé l'investiture UMP également à Jean-Louis Borloo. Donc ça pourrait le paraître, mais aussi à Hervé Morin et à des centristes, voilà, ils ont considéré que c'était les meilleurs pour défendre leurs chances sur les circonscriptions concernées. Après, c'est des choix au niveau de Jean-Louis Borloo, de Ramayad ou de Laurent Hénard, qui est notre secrétaire général au niveau national. Je considère que justement notre voix doit être entendue, et c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble.
Est-ce que vous êtes au courant d'un éventuel accord qui aurait eu entre au plus haut niveau entre les radicaux et l'UMP, ou des accords avec Jean-Louis Borloo, notamment le fait qu'il se présente pas?
Je pense que nous, on l'a tout regretté. Je vais être très clair avec vous. Hein, on aurait aimé avoir un candidat à défendre. Après, c'est aussi une responsabilité personnelle. Hein. Si on se sent ou on se sent pas, on n'est pas des millions d'élus à vouloir avoir des responsabilités un petit peu plus hautes. Et si chaque citoyen voulait devenir un élu, ça serait peut-être compliqué, mais il a fait un choix. Alors, est-ce qu'il y a eu un accord ou pas? Ça, je sais pas, donc je veux pas...
Et est-ce qui vous distingue vraiment, c'est quand même les positions sur la sécurité et l'immigration?
Bien sûr, là, on est... Enfin, là, c'est clair pour ma part. Je considère que ma place n'est pas du tout à l'UMP sur ces idées-là, et si l'UMP tendait à tirer trop sur la partie immigration et autres, je serais contre.
Et en ce qui concerne la fiscalité, le fait que les riches soient moins imposés que les pauvres?
Si vous voulez, là, c'est un... On va dire, je pense que tout le monde doit être imposé en fonction de ce qu'il gagne. Donc, il y a un quota. Mais pour vous dire, on va dire, gagnant bien ma vie aujourd'hui en tant que prof des universités, je veux dire qu'on est quand même bien aussi imposé. Hein, rassurez-vous, hein, il n'y a pas que les pauvres qui participent.
Oui, mais vous n'êtes pas, on va dire, vous êtes encore dans les classes moyennes,
oui.
5, 6 000.
Les classes moyennes sont quand même bien imposées, rassurez-vous.
Oui, hein. Je sais, mais c'est justement pas ça que je, pas d'eux que je veux parler.
Oui, non, mais je pense que justement, il y a peut-être une marge, et je pense que vous avez tout à fait, je suis d'accord avec vous là-dessus, que un certain nombre de nos concitoyens, même dans les hommes politiques, hein, n'oubliez pas que j'en ai discuté avec pas mal de gens, même de gauche, les rémunérations d'hommes politiques sont bonnes. Hein. Je pense pas que, vu le nombre de candidats potentiels au niveau national, ça soit des places, on va dire, difficiles à vivre. Hein, comme vous parliez tout à l'heure de l'allocation de recherche, c'est pas tout à fait une allocation de recherche, c'est un peu mieux. Et je crois que justement leur participation à l'effort national dans des cas comme aujourd'hui un peu de crise sont importantes et devraient être plus, on va dire, encouragées.
Et d'ailleurs, au niveau social, pour continuer sur cette thématique-là, vous pensez quoi de la proposition de Xavier Bertrand qui voudrait publier le nom des fraudeurs aux aides sociales dans un journal?
Ah, si vous voulez, moi je suis contre toute délation comme ça pour se faire plaisir. Ça, je préférerais que justement, si il existe des gens qui travaillent dans les différents organismes d'État pour contrôler, s'ils font bien leur travail, normalement, on doit avoir moins de tricheurs entre guillemets. Et ces tricheurs, ben, il faut les amender, corriger la chose. Pourquoi les donner encore en plus leur nom et autres ? À ce moment-là, il faudrait peut-être donner des noms de beaucoup de personnes.
Oui, parce qu'on remarquera qu'il y a quelques mois, même année, mais bon, on a tendance à oublier aujourd'hui. Hein. L'UMP, par éthique, n'avait pas voulu publier la liste des fraudeurs fiscaux.
Voilà.
Je voulais aussi faire encore référence à votre positionnement, parce que le Parti Radical, vous faites partie de l'ARES,
oui.
Dans laquelle il y a le nouveau centre,
oui.
La gauche moderne et tous ces...
Beaucoup de centristes.
Voilà. Vous faites partie donc des 5 Français qui soutiennent la candidature d'Hervé Morin ?
Non, parce que c'est le nouveau centre qui a fait son candidat, et même le nouveau centre...
qui est dans l'ARES.
Oui, oui, bien sûr, mais vous savez, l'ARES, c'est un regroupement de centristes, on travaille beaucoup ensemble, mais après, bon, ben, encore une fois, c'est des positions personnelles. Hervé Morin a voulu se présenter. On voit à l'heure actuelle, avec le pourcentage de voix que les sondages donnent, que c'est assez faible. Donc à un moment, je pense qu'il faut savoir ne pas perdre son temps.
Ouais, enfin bon, en même temps, vous êtes quand même dans un parti qui est né du charisme de André Rossino, donc peut-être que ça explique aussi le manque d'intérêt des gens.
Oh, mais vous savez, je pense que individuellement, on doit exprimer ses pensées politiques. C'est pour ça aussi que le PRV était, à l'origine de l'UMP. C'est pour essayer que les décideurs au niveau national prennent en compte les idées d'un maximum de monde qui puissent servir à faire évoluer notre société.
Et si les législatives étaient proportionnelles, vous n'auriez pas besoin de faire alliance avec l'UMP ? Enfin, pas directement de...
De toute façon, là, on n'a pas fait alliance puisque j'ai un candidat UMP face à moi, donc...
Oui, mais vous l'avez fait pendant 5 ans presque.
Oui, mais si vous voulez, je pense que la partie développement, si on a voulu un petit peu se démarquer, c'est justement parce que l'UMP prenait un chemin qui n'était pas le nôtre.
D'accord. Comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, vous avez pu aller en Chine et peut-être vous imprégner un peu de cette sagesse millénaire qu'il y a là-bas. D'ailleurs, dans le Tao Te Ching, Lao Tzu écrit « Celui qui se conduit vraiment en chef ne prend pas part à l'action ». Donc hier, on a pu voir un petit peu l'antithèse de ce qui de cette sagesse orientale. Quel bilan final on peut tirer quand même de 5 ans de sarkozisme, de revirements variés, divers et variés ? Et enfin, je poursuis ma question. Est-ce qu'à votre avis, c'est à cause de sa petite taille qui veut pas que la France sorte grandie de son mandat ?
Ah, je pense que si vous voulez, sa petite taille n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est un gouvernant au niveau international qui a quand même bien marqué la position de la France.
Dégradé si vous... ou marqué
Marqué. Si vous voulez, alors là, je serai très clair là-dessus. J'ai une position très claire vis-à-vis de Nicolas Sarkozy qui a quand même, si vous voulez.
Vous voterez pour lui
Peut-être. De toute façon, je voterai à droite, c'est sûr. Hein.
Peut-être Hollande, alors.
Mais si vous voulez, franchement...
Avant son dernier discours, je pense que Hollande vous convenait à peu près, là, avant qu'il s'en prenne à la finance.
Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté socialiste, c'est c'est pour ça que l'UMP et le PS, des fois, me font beaucoup sourire. On a un UMP qui va beaucoup plus à droite et un PS qui va aussi beaucoup plus à droite. Donc, à force, c'est vrai que je comprends très bien que le citoyen ait un peu de mal à bien comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un parti de droite et un parti de gauche.
Ouais, faut se méfier parce que UMPS, même si Ramayad l'employait, ça reste quand même du champ lexical un peu du Front National.
Ben oui, mais voilà, mais c'est les idées qu'il faut regarder derrière et on n'a pas du tout les mêmes idées.
Encore une petite question intelligente, Michel ?
Oui, justement, je vais prendre un révolutionnaire, Louis Saint-Just, qui disait « Tous les arts ont produit des merveilles, l'art de gouverner n'a produit que des monstres ». Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a dans ceux qui se présentent à la présidentielle, que ce soit Hollande ou Sarkozy, on a des gens qui n'ont fait que de la politique. Pierre Moscovici en est un autre exemple. Est-ce que au final, l'art de gouverner, ça finit pas d'user les gens et de les faire complètement déconnecter de ce qu'est la réalité et de ce qui finalement est pour ce pourquoi ils sont élus ?
Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que la grande difficulté, surtout quand on est un élu national, c'est toujours... Et c'est pour pour ça que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut toujours aller écouter ce que le citoyen dans nos villages, dans nos villes pense et attend. Parce que il y a souvent le politique qui oublie que il y a des gens qui vivent sur notre territoire et dans leur politique, ils voient que leurs rêves et leurs actions et ils en oublient un petit peu la réalité du présent.
Oui, parce que finalement, il y a des choses assez simples à faire. Pour rétablir nos finances, par exemple, comme disait Coluche, il faudrait simplement déclarer la guerre à la Suisse, la perdre, être envahi, et comme ça, on aurait enfin une monnaie forte.
Oui, mais notre monnaie peut être forte quand même.
On va se quitter. Une heure d'entretien déjà.
Eh ben merci.
Ben merci à vous Didier Klein d'être venu.
Oh, d'avoir c'était un plaisir.
Oh, carrément, voilà, je suis touché, je vais pleurer. Et on va conclure comme d'habitude avec le dernier mot, c'est juste un mot.
Mm-hmm.
Quel sera le vôtre ?
Égalité.
Carrément.
Bakambu.
Et moi ce sera TVA. C'est pas vraiment un mot, mais c'est très bien comme ça. Qu'on écoute ce qui va venir après sur Radio Bip. Salut.